Denis Roche, moi j'aimerais bien que vous nous racontiez un peu comment Roland Barthes a pu penser cette... est-ce qu'on peut appeler ça d'ailleurs une autobiographie? Ça, j'en sais rien. On pourrait peut-être...
Oui, pas vraiment.
Enfin,
non,
disons vraiment. Ce Barthes par lui-même, oui. Hein, qui est paru dans la collection Écrivain de toujours aux éditions du Seuil.
Écoutez, le souvenir que j'en ai est un souvenir assez rigolo parce que j'avais pris la direction, après beaucoup d'autres, la direction de cette collection en 71. Et cette collection, je dirais, statutairement, était réservée aux écrivains illustres, de préférence morts et si possible morts depuis longtemps. Bon, c'était quand même une collection Panthéon. Et je crois que à l'époque où j'ai repris la direction de cette collection, il devait y avoir simplement Sartre et je crois Giono qui avaient été traités de leur vivant. Bon, c'était vraiment des exceptions. Et je bataillais comme ça de temps en temps pour faire admettre ici l'idée qu'on fasse des auteurs plus récents, plus contemporains. C'était assez difficile. Et à cette époque-là, on avait le Seuil avait une vieille habitude depuis très longtemps. Chaque semaine, après la réunion du comité général, le vendredi matin, ceux qui en avaient envie allaient déjeuner ensemble. Voilà. Et en général, avec un auteur de la maison qu'on invitait, avec qui on bavardait. Et un jour, donc, on s'est retrouvés comme ça, une quinzaine au restaurant, et c'était Barthes qui était l'invité. Et il parlait, bon, parce que c'était un ami de tout le monde. Et donc, on bavardait, et lui bavardait, très, très détendu. Et comme dans ces cas-là, très, comment dire, aiguisant sa séduction. Et il parlait de lui, il racontait des choses sur sa vie. Et j'étais de l'autre côté de la table, Paul Flamand n'était pas très loin, qui était le patron de la maison à l'époque, et qui connaissait Barthes depuis très très longtemps. Il avait publié ses premiers livres ici, c'était de très très vieux amis. Et à un moment donné, j'ai pris un petit bout de papier dans un carnet dans ma poche, et j'ai écrit dessus, pourquoi pas un Roland Barthes dans Les Écrivains de toujours. Et j'ai passé le papier plié en deux à Paul Flamand. C'était pas du tout la vocation de cette collection, vraiment pas du tout. Et ça a séduit Flamand, j'ai vu à son visage qu'il était heureux. Bon, c'était une espèce d'exception, il avait certainement conscience, mais il était son penchant naturel. Évidemment, ne pouvait que le porter à dire oui. Et donc, je crois me souvenir qu'on en a parlé tout de suite à table. Je me souviens que Barthes était quand même un peu stupéfait, un peu... Puis c'était vraiment à chaud, comme ça, ou à froid, enfin, plutôt. Et il a dû réserver sa réponse quelques jours, mais il était séduit, et je crois que ça tombait... c'est ça qui était important, ça tombait au bon moment dans sa vie. Ça tombait au bon moment dans sa vie, et ça tombait au bon moment des enjeux de son écriture. Il avait... Comme vous le savez, dans les dix dernières années, il était porté vraiment d'une façon extrêmement intime vers l'écriture littéraire même. Il avait envie de raconter, il avait envie de faire autre chose que des textes sémiologiques. Et ça s'est fait comme ça. Il a dit oui assez vite, très content.
C'est un drôle de livre, parce que...
Oui, alors il y a évidemment la question du modèle auquel se référait s'est posée rapidement. C'était quand même une première dans la collection que ce soit l'auteur lui-même qui se traite. Et donc il a cherché... Je crois me souvenir qu'il s'est référé, en tout cas je lui avais donné quelques exemples comme étant plus commodes probablement, pour s'aborder lui-même, et je lui avais notamment parlé du Beckett qu'avait fait Ludovic Janvier, qui était fait de parcelles, comme ça, d'une succession, de très grande succession de parcelles variées, portant sur toutes sortes d'aspects.
De fragments.
Voilà. Et ça, évidemment, c'était plus facile pour Barthes de travailler comme ça. Ça lui donnait plus de liberté et plus d'échappatoire. Voilà, ça lui convenait, très bien. Il l'a fait assez vite, mais... Je ne me souviens plus très bien, mais il a écrit le livre assez vite. De temps en temps, il me téléphonait, il hésitait un peu, il se demandait si... Enfin, il avait toujours des pudeurs. Il se demandait s'il pouvait vraiment aller jusqu'à raconter certaines scènes. Ce qui fait la force de ce livre,
et
c'est
tout
ça.
Va de deux à trois lignes,
voilà,
jusqu'à une demi-page.
C'est sa variété. C'est la souplesse formidable de l'écriture et de la pensée de Barthes qui pouvait enfin manœuvrer en toute liberté.
Ça laisse le sujet insaisissable, au fond.
Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire, plus il en livre sur lui-même...
Moins on en sait. Ou
moins on en sait, d'une certaine manière, oui.
Moins on peut le saisir.
Oui. C'est vraiment la séduction même de Barthes qui est là-dedans, dans ce livre. Hein. C'est... Qui est dans tous ses livres, mais plus ou moins caché, parce qu'il a des choses à démontrer. Et là, il n'y a rien à démontrer.
Ouais.
Rien. C'est pour ça que c'est réussi. Ça a été, après, ça a été un peu plus compliqué pour l'iconographie. Enfin, oui et non. C'est-à-dire que pendant toute la période où il a rédigé le texte et où on s'est occupé de l'iconographie ensemble après, en somme, il se servait de moi pour lui donner une raison éditoriale, ce que je sais, de faire ce qu'il avait envie de faire. Je me souviens quand on a commencé à parler d'iconographie du Barthes par lui-même, il m'avait appelé, il était un peu en panne, je ne sais plus sur quoi. J'étais allé chez lui et il m'avait montré ses dessins qu'il y avait tout autour de sa chambre, punaisés au mur. Et bon voilà, quand la question de l'iconographie a commencé à se poser, il voulait que je le persuade de mettre des dessins, mais il en avait très envie. Et finalement, pour la couverture, on avait beaucoup hésité. Entre toutes sortes de choses. Finalement, il voulait mettre un dessin de Twombly. Et puis finalement, un jour, il n'a pas tenu. Il m'a dit, mais après tout, si on met un dessin de Twombly, pourquoi est-ce que je ne mettrais pas de mes propres dessins? Et voilà, ça s'est fait comme ça.
Et ça s'appelle « Souvenir de Joan Lépin ».
Oui, voilà. C'était très bien. Finalement, il a joué le jeu jusqu'au bout.
Oui.
Complètement.
Oui, est-ce que ce qui est frappant et tout à fait polyphonique dans ce livre aussi, c'est pas seulement la fragmentation, l'éclatement même des thèmes et le procédé, c'est aussi cette façon de parler lui-même au singulier et puis comme si, et à la troisième personne, il dit tout aussi bien, voilà. Ce qu'il est ou ce qu'il a fait que ce qui m'arrive ou ce que je fais.
En somme, il a porté la preuve de ce que tout le monde savait depuis toujours, qu'il n'est jamais impossible à un écrivain de parler de lui-même. Quoi. Je crois que c'est simple. Simplement, à cette époque-là, au début des années 70, et pour quelqu'un comme Barthes, c'est-à-dire essentiellement un professeur, et un théoricien, et pire encore, dirais-je, un sémiologue, se livrer comme ça spontanément à l'autobiographie n'était pas quand même une éventualité très admissible. Voilà. Après, ça a paru évident à tout le monde.
Bien sûr, mais c'est pas non plus tout à fait une autobiographie,
non.
Justement.
Non, bien sûr.
C'est un vrai livre.
Oui, tout à fait.
J'aimerais vous demander, Françoise Gaillard, s'il y a un texte de Roland Barthes que vous aimeriez particulièrement nous lire.
J'ai pensé à un petit texte que l'on connaît mal, que l'on cite généralement peu, et qui porte un titre très beau d'ailleurs, c'est dans les fragments qui constituent le Roland Barthes par Roland Barthes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Passion constante et illusoire d'apposer sur tout fait, même le plus menu, non pas la question de l'enfant, pourquoi, mais la question de l'ancien grec, la question du sens, comme si toute chose frissonnait de sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut à tout prix transformer le fait en idée, en description, en interprétation, bref, lui trouver un autre nom que le sien. Cette manie ne fait pas acception de futilité. Par exemple, si je constate, et je m'empresse de le constater, qu'à la campagne, j'aime à pisser dans le jardin et non ailleurs, je veux aussitôt savoir ce que cela signifie. Cette rage de faire signifier les faits les plus simples marque socialement le sujet comme d'un vice. Il ne faut pas décrocher la chaîne des noms, il ne faut pas déchaîner le langage. L'excès de nomination est toujours ridiculisé. Monsieur Jourdain, Bouvard et Pécuchet.
Denis Roche, vous pourriez nous lire un extrait, par exemple, justement, de ce Roland Barthes, par Roland Barthes.
C'est un paragraphe qui s'appelle « La baladeuse ». Autrefois, un tramway blanc faisait le service de Bayonne à Biarritz. L'été, on y attelait un wagon tout ouvert, sans coupé, la baladeuse. Grande joie, tout le monde voulait y monter. Le long d'un paysage peu chargé, on jouissait à la fois du panorama, du mouvement, de l'air. Aujourd'hui, ni la baladeuse ni le tramway ne sont plus, et le voyage de Biarritz est une corvée. Ceci n'est pas pour embellir mythiquement le passé, ni pour dire le regret d'une jeunesse perdue en feignant de regretter un tramway. Ceci est pour dire que l'art de vivre n'a pas d'histoire, il n'évolue pas. Le plaisir qui tombe, tombe à jamais, insubstituable. D'autres plaisirs viennent qui ne remplacent rien. Pas de progrès dans les plaisirs, rien que des mutations.
J'aimerais quand même qu'on choisisse un texte de Barthes, Severo Sardoui.
Je vais lire un texte de Roland Barthes qui fait partie du Roland Barthes par lui-même et qui est une lettre qu'il a reçue. Le texte s'appelle « Lettre de Gilali ». Reçois mon bonjour, mon cher Roland. Votre lettre m'a fait un très grand plaisir. Pourtant, celle-ci donne l'image de notre amitié intime qui est d'une manière sans défaut. En revanche, j'ai la grande joie de vous répondre à votre sérieuse lettre et de vous remercier infiniment et du profond de mon cœur à vos superbes mots. Cette fois-ci, cher Roland, je vais vous parler d'un sujet embêtant, à mon avis. Le sujet est le suivant. J'ai un frère, moins âgé que moi, étudiant en troisième, très mélomane, aimant la guitare et amoureux. Mais la pauvreté le dissimule et le cache dans son monde terrible. Il y a mal au présent, qui dit votre poète, et je vous prie, cher Roland, de lui chercher un travail dans votre aimable pays, dans les brefs délais, puisqu'il mène une vie pleine d'inquiétudes et de soucis. Or, vous savez la situation des jeunes Marocains, et cela vraiment m'étonne et me refuse le sourire radieux. Et cela vous étonne même si vous avez un cœur dépourvu de xénophobie et de misanthropie. En attendant impatiemment votre réponse, je demande à mon Dieu de vous garder en parfaite santé. Voilà la fin de la lettre de Gilali et voilà les commentaires très brefs de Roland Barthes. Délices de cette lettre, somptueuse, brillante, littérale et néanmoins immédiatement littéraire. Littéraire sans culture, renchérissant à chaque phrase sur la jouissance langagière, en toutes ses inflexions, précise, impitoyable, au-delà de toute esthétique, mais sans jamais et de loin la censurer, comme l'aurait fait nos tristes compatriotes. La lettre dit en même temps la vérité et le désir. Tout le désir de Gilali, la guitare, l'amour, toute la vérité politique du Maroc. Tel est exactement le discours utopique que l'on peut souhaiter.